BFM Radio.
Retour en direct sur le plateau d'affaires suivantes. Il a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse Alexia. Mais Jonathan Daval se retrouve à nouveau au cœur de l'actualité, cette fois-ci pour porter plainte contre la mère et la sœur de sa défunte épouse, plainte pour diffamation. Daval leur reproche les accusations d'empoisonnement tenues dans un épisode d'une série sur Canal+. Émile Darcos.
Tourner une page, c'était l'espoir de la famille d'Alexia Daval à la sortie du procès.
Et on aspire à beaucoup, beaucoup de sérénité.
Mais dans cette affaire, il y a maintenant 3 dossiers ouverts. Le plus récent, la plainte de Jonathan Daval. Par la voix de son avocat, il dénonce les propos d'Isabelle et Stéphanie Fouillot dans un documentaire où elles ont évoqué la thèse de l'empoisonnement d'Alexia Daval. Voici les 2 extraits, objet d'une action en justice.
Avec le recul, on comprend que cette fausse couche, elle n'était probablement pas accidentelle.
Elle n'a pas pris conscience qu'il a drogué.
Pour l'avocat de Jonathan Daval, il s'agit d'une volonté de nuire, comme si au-delà de sa condamnation à 25 ans de prison pour meurtre, il fallait porter atteinte à son honneur en le faisant passer pour un empoisonneur en plus d'un meurtrier. L'avocat de la famille Fouillot juge, lui, cette plainte à contretemps.
Ça a été évoqué publiquement devant la cour d'assises. C'est à ce moment-là qu'il fallait déposer plainte pour diffamation. Aujourd'hui, cette plainte, elle est tardive, elle est prescrite.
Deuxième dossier en cours, la plainte pour dénonciation calomnieuse portée fin 2018 par la famille Fouillot à l'encontre de Jonathan Daval. Il avait accusé son beau-frère de meurtre et sa belle-famille de complot. Pour ces faits qui seront examinés le 10 avril au tribunal correctionnel de Besançon, la mère de Jonathan Daval donne son explication.
Comme il voyait que j'avais de la peine et que je ne voulais pas admettre, je pense qu'il s'est dit dans sa tête, si je mets quelqu'un d'autre, maman, elle sera contente.
Enfin, la justice devra se pencher sur la succession, pas entièrement réglée, de la maison du couple. Une maison venant de la famille d'Isabelle Fouillot.
Sur le plateau d'affaires suivantes, Aude Barghetti, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Figaro, auteur de l'affaire Daval aux éditions du Rocher. À vos côtés, Thomas Chagnot, bonjour.
Bonjour.
Réalisateur et coproducteur de la série documentaire Alexia, autopsie d'un féminicide, diffusée sur Canal+. 6 épisodes dans cette série.
4.
Et c'est l'un de ces épisodes qui pose problème avec cette thèse de l'empoisonnement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la mère et la fille et la sœur d'Alexia veulent revenir sur cette thèse qui est écartée au procès ?
Alors, déjà, je voudrais dire que cette plainte est indigne. Voilà, c'est indigne, c'est une insulte faite à la mémoire d'Alexia, et c'est une insulte faite à la mémoire de la famille d'Alexia. Je trouve que, honnêtement, c'est indigne. Voilà. Je voudrais juste rappeler juste le contexte. Oui. Alexia, elle n'est pas morte accidentellement.
Il a été condamné pour cela.
Oui, elle a été morte après 15 coups de poing. Elle a été étranglée pendant 5 minutes. Il l'a jetée au sol, il l'a traînée, il a brûlé son corps. Et il y a même possiblement l'hypothèse d'un viol post-mortem qui a été évoqué lors du procès.
Évoqué, mais pas vérifié.
En tout cas, c'est
oui,
ça
non, mais ce qui s'est passé. Ça.
Donc, c'est ça ce qui s'est passé. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est indigne de vouloir inverser les choses et de vouloir considérer que la famille d'Alexia serait en quelque sorte responsable de je ne sais quoi à l'égard de à l'endroit de Jonathan Daval. Voilà, je trouve ça indigne. Pardon.
Je vous interromps une seconde pour en rajouter d'ailleurs. Donc il tue sa femme, il ment à tout le monde, à sa famille, aux enquêteurs, aux journalistes, à la France entière. Il pleure. Il accuse de façon éhontée son beau-frère,
ce qui donne
Grégory Guay,
à une nouvelle plainte.
Absolument. Il accuse Grégory Guay, son beau-frère, d'avoir tué Alexia, avec la complicité de sa belle-famille. Et aujourd'hui, il dépose plainte pour diffamation pour des propos qui ont été évoqués aux assises et qui n'ont pas été retenus.
L'indignité, et encore une fois, c'est l'indignité de Jonathan Daval, c'est aussi l'indignité de son avocat, qui va aujourd'hui porter plainte contre cette famille. Après, comme vous l'avez dit, avoir expliqué que Alexia était dans une certaine mesure responsable de sa propre mort parce qu'elle aurait été violente, parce qu'elle aurait été insupportable, parce qu'elle aurait été hystérique. De la même façon que il va après accuser Grégory d'être
le beau-frère,
le tueur, d'être le meurtrier de sa propre belle-sœur, l'avocat expliquant sur tous les plateaux de la terre entière, de la France entière, qu'il avait les preuves pour démontrer que Grégory était le meurtrier et que Jonathan
ne l'était pas. C'est l'avocat de la défense.
Oui, est-ce qu'on peut se permettre ce genre de choses quand on est avocat? Je ne le crois pas. Bref, en tout cas, il y a une question de dignité. Il me semble que là encore, on a dépassé un certain seuil qui n'est vraiment pas acceptable.
Audberg, en parlant de dignité, ce qui est aussi frappant, c'est que cette plainte, elle est déposée le 18 février, c'est le jour de l'anniversaire d'Alexia.
Le 16, il me semble.
Le 16 ou le 18. Le 16, effectivement.
Qui, en effet, était le jour de l'anniversaire d'Alexia.
Ça dit quoi de la psyché de Jonathan Daval? Est-ce que c'est volontaire, c'est calculé, c'est... Alors, c'est une couche supplémentaire dans son attitude.
Des deux côtés, il y a vraiment une réponse, évidemment, des réponses très contradictoires. Du côté de la défense de Jonathan Daval, on explique qu'il y avait un enjeu de prescription, puisque la série est sortie le 26 novembre, donc ils avaient jusqu'au 26 février. Et donc, Maître Ferdorfer m'expliquait qu'il y avait un délai, qu'il n'avait pas regardé la série tout de suite, et donc il s'est dépêché et qu'il a déposé plainte à la fin. Et du côté de Maître Portejoie, l'avocat de la famille Fouillot et Gay, on dit, mais attendez... la famille Fouillot voit, enfin, ils voient du mal, ils voient une volonté de leur faire du mal. Donc voilà, il y a deux explications contradictoires.
Non, mais il y a surtout, du moins, l'avocat de Jonathan Daval nous explique aujourd'hui que c'est un fait nouveau, comme si, d'abord, personne ne parle d'empoisonnement, contrairement à ce qu'il explique. On parle de soumission chimique, on parle du fait que Jonathan Daval ait pu éventuellement droguer pendant plusieurs mois Alexia. Il y a un faisceau d'indices, comme on dit en droit pénal, qui prouve cette chose-là.
Qui prouve cette chose-là, quand même, ça n'a pas été retenu au procès.
Ça a été évoqué au procès, ça n'a pas été retenu.
On peut rentrer dans les détails. Ce que je veux juste dire, c'est que... vous me faites perdre le fil de ce que j'expliquais. Mais bref, en tout cas... je perds totalement.
Ce qui est important, parce que c'est évidemment l'élément fondamental, c'est qu'il y a ce témoignage, il y a ce ressenti de la famille, donc de la mère et de la sœur, et qu'en même temps, effectivement, au procès, la thèse de l'empoisonnement.
Ce que je veux vous dire, c'est que ça n'est pas un fait nouveau. Le fait qu'il y ait cette présence de médicaments dans le sang et dans les cheveux d'Alexia, ça a fait l'objet d'investigations extrêmement approfondies au cours de l'enquête, ça a fait l'objet de débats au cours du procès, et ça a fait l'objet d'une partie extrêmement importante du livre qu'on a publié chez Robert Laffont il y a 3 ans. Donc rien n'est nouveau là-dedans. La série documentaire qu'on a fait sur ces 4 épisodes, d'abord, n'affirme rien, simplement... additionnent et font une succession de faits extrêmement précis qui montrent que oui, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement troublant, c'est que dans le corps d'Alexia, on trouve des médicaments dangereux, certains interdits à la vente et qui sont extrêmement dangereux, qui sont contradictoires avec la volonté d'avoir un enfant. Or, Alexia était en pleine processus pour avoir cet enfant et donc il y a une improbabilité pour que ce soit elle qui ait pris ces médicaments et donc voilà, qui a pu le faire, on n'en sait rien, mais...
Est-ce que Thomas Chéniaud, dans le doc, vous l'avez vu aussi, quelle est la phrase que prononce Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia? Quelle est la phrase que prononce Stéphanie Gay, la sœur d'Alexia? Est-ce qu'il y a une ambiguïté? Est-ce que la phrase, elle aurait, par le scénariste, été mal écrite?
Le scénariste, c'est moi, je suis l'auteur, je suis le réalisateur.
Et le scénariste, donc alors...
Et je ne suis pas scénariste, on fait un documentaire, donc d'accord. C'est pas une fiction, ouais. C'est la réalité.
Il y a une, on va dire, un fil rouge, quelle est la phrase qui est prononcée, Thomas Chéniaud? Il y a absolument zéro fil rouge,
il y a une succession de faits, comme je l'ai fait dans le livre, on l'a fait de la même façon dans la série. Encore une fois, on peut reprendre tous les éléments de ce qu'est cette histoire pour vous démontrer que il y a des éléments extrêmement troublants. Il n'y a pas d'affirmation dans la série. Je ne sais plus quelles sont les phrases qui ont été retenues. C'est quand Isabelle
les avait notées, mais j'arrive pas à lire.
À ce moment-là, elle ne sait pas que Jonathan peut-être l'a droguée. Elle dit quelque chose comme ça. Stéphanie évoque le fait que la fausse couche n'ait peut-être pas été accidentelle. Vraisemblablement, on peut le croire. Mais il n'y a pas, encore une fois, de volonté de démonstration, il n'y a pas de scénarisation. Il y a simplement une série documentaire qui dure 4 fois 52 minutes. Ces éléments sont la conclusion de ces 4 fois 52 minutes, c'est-à-dire que c'est l'hypothèse. Peut-être que eux émettent, au regard, encore une fois, de l'ensemble des éléments extrêmement précis qui, mis bout à bout, laissent à penser
que
oui,
ils ont le sentiment que la justice, cette piste de l'empoisonnement a été écartée lors du procès. Est-ce qu'aujourd'hui, la famille d'Alexia a le sentiment que En gros, la justice s'est trompée, qu'elle n'a pas été au bout des choses, qu'elle n'a pas condamné aussi Jonathan Daval pour cela, et qu'elle en parle pour cela, pour
vous dire
voilà ce qui est la réalité.
Je vais vous dire, les parents ne disent rien, ne revendiquent rien, ne critiquent rien. Simplement, vous savez, ils n'ont pas besoin d'inventer.
Ils évoquent leur ressenti, mais c'est
ça qui est intéressant. Ils n'ont pas besoin d'inventer de nouvelles choses. Ils n'ont pas besoin d'expliquer qu'ils seraient un empoisonneur ou je ne sais quoi. Ils ont le drame, leur propre drame leur suffit. Ils n'ont pas besoin d'inventer n'importe quoi. Encore une fois, il a tué leur fille dans des conditions que je viens de rappeler qui sont épouvantables. Et donc, ils n'ont pas besoin d'expliquer en plus qu'il serait plus méchant que ça. Il est méchant. Il a tué leur fille.
Aude Barietti, vous, cette plainte déposée par Jonathan Daval ou son avocat, Randall Schwerdorfer, vous qui connaissez bien le dossier aussi, au final, est-ce que vous dites c'est normal, il est dans son rôle ou est-ce qu'il doit se faire oublier au fond de sa prison? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, moi, je juge pas les intentions de chacun.
Non, mais personnellement, mais comme journaliste.
Je trouve ça intéressant, en tout cas, comme journaliste, de voir comment cette affaire rebondit, alors qu'en novembre 2020, à l'issue du procès, il n'y avait pas eu d'appel, on s'était dit, on va s'arrêter là, on en a
il
parlé.
Il a accepté la peine
voilà,
de 25
ans. Voilà, on va s'arrêter là, il a été condamné à 25 ans de réclusion, le procès a été mené de manière digne, il s'était passé beaucoup de choses, on s'était dit, on va s'arrêter là, et finalement, 3-4 ans plus tard, en fait, on voit que ça rebondit, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a au moins 3 autres affaires judiciaires qui s'accumulent, et en fait, on se rend compte que cette affaire qui avait passionné la France pour plein de raisons, on en avait parlé à l'époque, en fait, elle continue à faire parler d'elle et que de chaque côté, il y a de nouveau des plaintes, des citations directes. Donc, on voit que ça continue. Est-ce que c'est une volonté d'un acteur, de deux acteurs, de tout le monde, de personne? C'est difficile à estimer, mais en tout cas, on voit qu'on continue à en reparler et ça sera intéressant. Moi, je pense notamment au 10 avril, au procès du 10 avril, donc pour la dénonciation calomnieuse. La procédure enclenchée par Grégory Guen, notamment à l'encontre de Jonathan Daval, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et puis, de nouveau, si Jonathan Daval est là, une nouvelle confrontation, finalement, entre Jonathan Daval et la famille de la personne qui l'a tué.
Thomas Chagnot. Ouais,
c'est, encore une fois...
Chagnot. Bon. Je vous ai rajouté un I.
Non, mais moi, j'y vois... un élément de diversion. Je veux dire, on est à un mois et demi d'une procédure qui va s'ouvrir, qui est une procédure pour dénonciation calomnieuse. Et là, pour le coup, la dénonciation calomnieuse, il y a peu de chances de pouvoir expliquer qu'elle n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Parce que celui qui a accusé Grégory Guay d'avoir tué est celui qui a tué. C'est difficile d'expliquer que ce n'est pas une dénonciation calomnieuse. Donc, je pense que, de la part de l'avocat de Jonathan Daval, c'est un moyen de faire un contre-feu à une dénonciation calomnieuse d'un côté, vous opposez une diffamation de l'autre.
Vous dites diversion, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de narcissisme chez Jonathan Daval? Même si, évidemment, c'est à ses dépens, puisqu'il a été contraint d'avouer, mais est-ce qu'il ne s'est pas habitué à la lumière? Est-ce qu'il ne s'est pas habitué à être au centre des attentions? On a aussi des récits de ses détentions, des amitiés assez surréalistes qui peuvent nous... Mais est-ce que cet homme-là, qui a joué les veufs et pleuré, qui a menti, qui a finalement avoué, en fait, il ne s'est pas habitué à être dans la lumière. Est-ce que ce n'est pas son moyen de revenir comme cela, face à son ancienne belle-famille, pour dire voilà.
Est-ce que c'est vraiment lui qui fait la procédure? Est-ce qu'il a vraiment vu la série de Canal+? J'en suis pas certain.
Il regarde beaucoup de choses selon nos informations.
J'en suis pas certain. Est-ce qu'ils ont Canal+ en cellule? J'en suis pas certain. Bref, est-ce que c'est pas la volonté, vous parlez de l'envie de lumière, l'envie de pouvoir être devant les caméras, l'envie de pouvoir être devant tous les micros? J'ai l'impression aussi qu'il y a une volonté, une obsession même de la part de l'avocat de Jonathan Daval de pouvoir être dans la lumière et de faire de cette affaire une espèce de promotion permanente pour sa propre carrière.
Alors, ce qui surprend quand même, c'est qu'au moment du procès, vous avez suivi le procès, Aude, les deux avocats, qui étaient Gilles-Jean Portejoie pour la famille Fouillot, et Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval, donc de la Défense, avaient passé, on imagine, une sorte de pacte, en tout cas c'était parlé, pour que ne soit pas porté atteinte, en plus de ce procès, à la mémoire d'Alexia. Et il faut quand même dire que, de ce côté-là, Randall Schwerdorfer a appuyé sur le frein. Peut-être son associé Ornella Spadafora, qui était une femme, a pu dire un peu « Oui, mais quand même, Alexia, regardez, elle avait un fort tempérament, pas facile à vivre. » Mais il y avait cette espèce de pacte de non-agression, et là, d'un seul coup, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on s'agresse, on s'envoie des procédures. Alors, du côté Grégory Guay contre Jonathan Daval, oui, parce qu'il a quand même été accusé de meurtre, mais de l'autre côté, cette histoire d'empoisonnement, franchement...
Bah, c'est vrai que c'est ce que je disais à l'instant, voir cette histoire ressuscitée plusieurs années après, c'est un peu surprenant parce qu'on s'attendait quand même plus à ce que ça soit une affaire non pas classée, mais en tout cas qui soit dans le passé. Et d'ailleurs, les acteurs principaux de cette affaire, et notamment la famille Fouillot, avaient dit à juste titre, nous, on a envie aussi de tourner la page. Non pas tourner la page dans le sens, on oublie Alexia, c'est impossible, mais dans le sens, voilà, le temps judiciaire est passé et maintenant, c'est aussi le temps du deuil, de la reconstruction. On sait à quel point un procès est important dans un processus comme ça pour une famille, mais ça ne règle pas tout quand même. Et c'est là que c'est important aussi la question de la maison. Ça, la question de la maison, c'est il faut y prêter attention, importance, parce que c'est très
expliquez-nous
important.
Expliquez-nous ça, expliquez. Parce que l'histoire de la maison,
c'est la troisième,
la maison de Grès-la-Ville. Je pense que tout le monde se souvient des images, cette maison rose, ce pavillon rose. En fait,
c'était la maison de Madame Fouillot.
C'est là où Isabelle Fouillot a grandi. Ensuite, Alexia et donc Jonathan en sont devenus propriétaires. C'est là qu'a eu lieu le drame. Et donc, quand elle est morte, s'est posée la question de à qui revient la maison. Donc, il y a eu tout un enjeu, un litige qui n'est pas totalement terminé, parce que même si la maison doit revenir à la famille Fouillot, il y a un enjeu de partage successoral qui fait qu'elle est toujours sous scellé, les Fouillot ne peuvent pas la récupérer.
Ça fait un an et demi que la mère de Jonathan Naval fait en sorte que toute cette donation soit figée, alors que la justice leur a donné raison et cette maison. Bref, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
C'est
un intérêt parce que ça montre.
Ça montre aussi la mentalité de Jonathan Naval.
L'acharnement, exactement.
Il y a quelque chose d'acharnement.
Il y a un acharnement de la part des parents de Jonathan Naval, de son avocat, contre la famille d'Alexia. Manifestement, encore une fois, cette maison leur revient, ça fait un an et demi qu'ils devraient avoir les clés, ils ne l'ont pas. La mère d'Alexia, de Jonathan Naval, demande des sommes faramineuses avant de pouvoir remettre les clés. Bref, encore une fois, je pense que le cœur d'histoire, c'est quand même cette histoire d'accusation et de soumission chimique. Encore une fois, le premier jour, Alexia est pas encore retrouvée. Elle vient de disparaître depuis quelques heures devant les gendarmes. Jonathan Naval dit tous les mensonges qu'on sait. Il explique toute la fausse histoire qu'il va raconter pendant des mois et des mois. Et il explique devant les gendarmes, il dit de toute façon, elle était violente. Et elle est même jusqu'à aller dire que je la droguais. C'est lui-même qui le dit le jour de la disparition de sa femme.
Merci tous les deux. La suite du feuilleton judiciaire autour de Jonathan Naval, ce sera évidemment dans l'affaire suivante et sur BFM TV. Merci beaucoup à tous les deux.